Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Dans l'actualité de l'Église, nous vous parlerons notamment de la publication lundi du motu proprio du pape François sur la transparence, le contrôle et la concurrence dans les procédures d'attribution des marchés publics du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. Nous vous rendrons également compte du message du pape à l'occasion du 50e anniversaire de la promulgation du rite de la consécration des Vierges, les nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Mozambique et en République démocratique du Congo compléteront ces actualités. L'actualité sociopolitique africaine, quant à elle, nous conduira en Algérie, au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des Radios Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukoso.
Il a été rendu public lundi la lettre apostolique sous forme des motu proprio du pape François sur la transparence, le contrôle et la concurrence dans les procédures d'attribution des marchés publics du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. La loi cadre et les résultats des 4 années de travail partagés entre les différents organismes du Vatican et qui servira désormais de référence unique pour toutes les réalités au-delà des frontières. Le texte est composé des 86 articles auxquels s'ajoutent 12 autres relatifs à la protection judiciaire en cas de litige. Cette législation détaillée reprend la Convention des Nations Unies contre la corruption signée à Mérida et remplace les règlements précédents déjà en vigueur en s'étendant également à tous les organismes du Saint-Siège qui, jusqu'à présent, ne disposaient pas de leur propre législation en matière des contrats et des marchés. La diligence du bon père de famille, écrit François, est un principe général de respect maximal sur base duquel tous les administrateurs sont tenus d'attendre leurs devoirs. Les normes, lit-on encore dans le motu proprio, servent à promouvoir la transparence, les contrôles et la concurrence dans les procédures d'attribution des marchés publics stipulées au nom du Saint-Siège et de l'État du Vatican. Les opérateurs économiques qui fournissent des biens, des services, des travaux et des ouvrages se verront garantir l'égalité des traitements et la possibilité des participations grâce à un registre spécial et à des procédures spécifiques. Le Saint-Père a publié lundi un message à l'occasion du 50e anniversaire de la promulgation du rite de la consécration des Vierges, édité par la Congrégation pour les cultes divins avec les mandats des Saint Paul VI. Dans son message, le pape rappelle que la pandémie toujours en cours oblige à reporter la réunion internationale convoquée par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour célébrer cet important anniversaire. 50 ans après ces rites, François invite la Congrégation des Vierges à ne pas éteindre la prophétie de sa vocation. Vous êtes appelés non pas par votre propre mérite, mais par la miséricorde de Dieu à faire briller dans votre existence les visages de l'Église, épouse du Christ, qui est vierge parce que bien qu'elle soit composée des pécheurs, elle garde la foi intacte, conçoit et fait naître une nouvelle humanité, écrit l'évêque de Rome. La consécration, poursuit François, vous réserve à Dieu sans aliéner le milieu dans lequel vous vivez et dans lequel vous êtes appelés à donner votre témoignage avec les styles de la proximité évangélique. Soyez des femmes de miséricorde, des expertes en humanité, de femmes qui croient au pouvoir révolutionnaire de la tendresse et de l'affection, écrit les papes, tout en rappelant que la pandémie nous enseigne qu'il est temps de supprimer les inégalités, de guérir l'injustice qui mine la santé de toute l'humanité. Ce qui se passe dans le monde vous ébranle, ne fermez pas les yeux et ne les fouillez pas, traversez la douleur et la souffrance avec délicatesse. Persévérer dans l'annonce de l'Évangile, de la vie en plénitude pour tous, conclut le pape. Me voici, envoyez-moi, c'est le titre du message du pape pour la Journée mondiale des missions 2020 qui sera célébrée le 18 octobre prochain, message publié à l'occasion de la solennité de la Pentecôte. François y souligne les liens entre l'Esprit Saint et la mission dans l'Église et dans les contextes de la pandémie actuelle, il rappelle que l'humanité est appelée à ramer ensemble et que Dieu veut toucher tout le monde avec son amour. Le titre du message du Saint-Père s'inspire du récit biblique de la vocation du prophète Isaïe à la question du Seigneur « Qui enverrai-je ?» Isaïe répond « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Cet appel, écrit François, vient du cœur des dieux de sa miséricorde qui interpelle à la fois l'Église et l'humanité dans la crise mondiale actuelle. Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et angoissés. La douleur et la mort nous font vivre notre fragilité humaine, mais en même temps, nous partageons tous un fort désir de vie et de libération du mal. Dans ces contextes, souligne l'évêque de Rome, l'appel à la mission, l'invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une occasion de partage, de service, d'intercession. La mission que Dieu confie à chacun fait passer du moi craintif et fermé au moi trouvé et renouvelé par les dons de soi. L'impossibilité de se réunir en tant qu'Église pour célébrer l'Eucharistie, écrit les papes, nous a fait partager la condition des tant de communautés chrétiennes qui ne peuvent pas célébrer la messe tous les dimanches. Ainsi, la question que Dieu pose, qui enverrai-je, nous est à nouveau adressée aujourd'hui et attend de nous une réponse généreuse et convaincue. Mais voici, envoyez-moi, Dieu continue de chercher. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé Monseigneur Giovanni Daniello, nonce apostolique auprès de la Fédération des Russies. Monseigneur Daniello était jusqu'ici nonce apostolique au Brésil. Les évêques de la province ecclésiastique de Nampula, Mozambique, se disent profondément préoccupés par les conflits dans la région de Cabo Delgado, située dans le nord du pays. Ils appellent les parties belligérantes à tracer la voie de la paix par la tolérance, le dialogue politique, le respect de la dignité et les droits de chaque être humain. Nous sommes profondément préoccupés par l'aggravation de la situation à Cabo Delgado, qui en pratique est devenue le théâtre d'un conflit mystérieux et incompréhensible, ont déclaré les évêques dans une déclaration collective publiée le jeudi 28 mai dernier. Les prélats mozambicains appellent également toutes les personnes et institutions de bonne volonté dans la diversité des fonctions et des responsabilités à s'engager fidèlement dans la poursuite d'une société mozambicaine de réconciliation, de paix et de justice sociale par la tolérance, le dialogue politique, le respect de la dignité et des droits de chaque être humain sans aucune forme de discrimination ou d'exclusion. Retrouvons notre correspondant en République démocratique du Congo pour parler de la célébration du jubilé de 200 ans d'existence de Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, une congrégation dédiée à la communion. Reportage.
À cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie du coronavirus, c'est dans la cour et non dans la chapelle du noviciat que l'évêque d'Idiofa, Monseigneur Joseph Moko, a présidé la messe le jeudi 28 mai à Idiofa pour le jubilé des 200 ans d'existence de la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Comme à Idiofa, les religieuses ont exulté de la même joie à Kikwit, à Kinshasa et à Patou dans le diocèse de Boma, tout comme dans les 25 pays du monde, dont 9 en Afrique, où elles sont présentes pour rayonner du charisme de communion. En Jésus, la communion est possible, disent depuis 1820 les religieuses et les laïcs membres de l'association fondée en cette année-là par le prêtre français Pierre Bienvenu Noraille, pour renouveler le témoignage d'unité des premiers chrétiens à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth. À Kinshasa, le supérieur provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, le père Joseph Ntumba, a présidé la messe du jubilé. En ouverture, sœur Brunette Mumbimbi a rappelé l'histoire et la pertinence pour aujourd'hui du charisme des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux.
Dans un contexte bouleversant de pandémie de COVID-19, qui nous démontre une fois de plus que nous vivons dans un univers interconnecté, un charisme de communion.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
La désinformation, comme le coronavirus, se propage. Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de COVID-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Eteni Longondo, a déclaré lundi qu'une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'était déclarée dans le nord-ouest du pays avec déjà 4 personnes décédées. Les 4 décédés ont été enregistrés dans un quartier de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur, à environ 600 km à vol d'oiseau au nord de la capitale, Kinshasa. La province de l'Équateur avait déjà été touchée par une précédente épidémie d'Ebola en mai et juillet 2018 avec 54 cas pour 33 morts et 21 survivants. Dans un autre registre, Trésor Mputu Kakonde, l'un des principaux présumés responsables de l'assassinat en mars 2017 de Michael Sharp et Zaïda Catalan, deux experts des Nations Unies dans la région du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, a été arrêté samedi après 3 ans de recherche. Les cours ont repris lundi dans les universités de Tanzanie. Malgré les manques de clarté sur l'évolution du coronavirus, aucun chiffre n'étant plus publié depuis avril sur décision du gouvernement. Tandis que des dizaines de campus rouvraient dans tous les pays après 2 mois et demi de fermeture, les mesures de protection contre les virus étaient sommaires. Des nouvelles installations pour se laver les mains étaient ponctuellement utilisées par les étudiants, tandis que les amphithéâtres sont bondés sans respect des distances de sécurité. La ministre sud-africaine de l'éducation, Angelina Motshekga, s'est excusée lundi pour la confusion causée par le report à la dernière minute de la reprise des cours dans de nombreuses écoles mal préparées face à la pandémie de la COVID-19. Les élèves des terminales et des dernières années des primaires étaient attendus en cours lundi après 2 mois et demi de fermeture des établissements pour cause des confinements. Mais dimanche soir, le ministre de l'Éducation a annoncé le report de la reprise officielle au 8 juin prochain. Au moins 3 civils dont 2 réfugiés ont été tués dimanche dans une attaque des djihadistes contre un site abritant des réfugiés maliens à Itikane, dans la région des Taoua, proche du Mali, a indiqué lundi l'ONU.
Radio Vatican, France-Afrique. Camille Moukoso.
Les experts estiment que les autorités des transitions soudanaises sont engagées dans les recouvrements de biens mal acquis de l'ex-président Omar El-Béchir et de son entourage, mais beaucoup de ces avoirs volés seront difficiles à récupérer. Salah Maha, porte-parole du comité de la lutte contre la corruption qui a entamé ses travaux en décembre, a estimé que les premières estimations indiquent que la valeur de biens fonciers et immobiliers illégalement acquis par les hommes de l'ancien régime aussi entre 3,5 et 4 millions de dollars. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il précisé, en ajoutant que les comités qui travaillent sous la houlette du gouvernement militaro-civil n'avaient pas encore pu mettre la main sur les liquidités. Un désaccord autour de la construction ou non d'une nouvelle mosquée a dégénéré samedi en violence entre musulmans qui ont fait un mort à Yorobondi, village du centre de la Côte d'Ivoire où un couvre-feu a été instauré. Le gouvernement burkinabé a indiqué dimanche qu'une attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes a fait au moins 10 morts samedi au nord du pays. Le gouvernement a aussi annoncé un bilan provisoire de 25 morts dans l'attaque du marché des Kompey-Binga dans l'est du Burkina Faso, ce qui porte en une 50aine de personnes tuées, comme un bilan de 3 attaques attribuées aux djihadistes depuis vendredi. Au moins 5 civils ont été tués et 12 autres blessés dimanche dans des tirs de roquettes sur la capitale libyenne Tripoli, selon le gouvernement d'Union nationale. Concluons l'actualité sociopolitique africaine par l'Algérie. Le procès prévu lundi de Karim Tabou, figure du mouvement des contestations Irak, a été à nouveau reporté au 29 juin, a indiqué le porte-parole d'une association de défense des détenus.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine consacré à la santé avec Françoise Niamien.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé s'intéresse aujourd'hui au nouveau kit mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour mettre un terme à l'exploitation des enfants et des jeunes par l'industrie du tabac. En prélude à la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, intitulée « Protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine », l'Organisation mondiale de la santé avait lancé le vendredi 29 mai dernier un nouveau kit à destination des élèves de 13 à 17 ans afin de les alerter sur les tactiques utilisées par l'industrie du tabac dans le but de les rendre dépendants de certains produits addictifs. Chaque année, l'industrie du tabac investit plus de 9 milliards de dollars pour promouvoir ses produits. De plus en plus, elle cible les jeunes afin de les faire consommer de la nicotine et des produits du tabac dans l'optique de remplacer les 8 millions de personnes que ces produits tuent chaque année, a fait remarquer l'OMS. Le nouveau kit comporte un ensemble d'activités en classe, dont l'une consiste notamment à mettre les élèves dans la peau de l'industrie du tabac afin qu'ils se rendent compte de la façon dont elle tente de les manipuler et de les pousser à consommer des produits mortels. L'outil comprend également une vidéo à visée éducative, un quiz contre les idées reçues et des travaux à faire à la maison. L'outil expose en outre des tactiques telles que l'organisation de soirées et de concerts par l'industrie du tabac et des industries associées, les goûts des cigarettes électroniques qui attirent les jeunes, comme les goûts chewing-gum et bonbons, les présentations des cigarettes électroniques dans les écoles par des représentants ou encore le placement de produits dans des émissions en streaming appréciées par les jeunes. En même temps de la pandémie mondiale, l'industrie du tabac et de la nicotine persévère en faisant de la promotion de produits qui font qu'une personne est moins à même de lutter contre le coronavirus et de se remettre de la maladie, fait souligner l'Organisation mondiale de la santé. L'industrie a fait cadeau de masques estampillés de leur logo et a offert la livraison à domicile pendant le confinement. Elle a également fait pression pour que ces produits soient considérés comme essentiels, dénonce encore l'OMS. Fumer asphyxie les poumons et d'autres organes en les privant cruellement de l'oxygène dont ils ont besoin pour se développer et fonctionner correctement. Éduquer les jeunes est crucial puisque 9 fumeurs sur 10 commencent à fumer avant l'âge de 18 ans. Nous voulons que les jeunes soient suffisamment informés pour pouvoir dénoncer la manipulation de l'industrie du tabac, a expliqué Rüdiger Kresch, directeur de la promotion de la santé à l'OMS. Monsieur Kresch a indiqué en outre que plus de 40 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans avaient déjà commencé à consommer des produits du tabac. Afin de toucher davantage de jeunes, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un défi de danse sur TikTok et a accueilli des partenaires des réseaux sociaux comme Pinterest, YouTube et TikTok afin d'élargir le cercle de diffusion de ces messages. Toujours dans son combat, l'OMS lance un appel généralisé à rejoindre la lutte contre les tactiques de marketing de l'industrie du tabac et des industries associées qui visent les enfants et les jeunes. École, refuser tout type de parrainage et empêcher les représentants des entreprises de la nicotine et du tabac de s'adresser aux élèves, célébrités et influenceurs, rejeter toute offre de parrainage. Télévision et services de streaming, cesser de montrer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques sur les écrans ou encore plateformes de réseaux sociaux, bannissez le marketing des produits du tabac ou des produits associés et interdisez le marketing des influenceurs. L'OMS appelle également les pouvoirs publics et secteurs de la finance à cesser d'investir dans l'industrie du tabac et dans les industries associées et au gouvernement d'interdire toute forme de publicité, de promotion et de parrainage en lien avec les produits du tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que les pays peuvent protéger les enfants de l'exploitation de l'industrie en mettant en place des lois de lutte anti-tabac strictes, incluant notamment la réglementation de produits tels que les cigarettes électroniques qui ont déjà commencé à harponner une nouvelle génération de jeunes. Notons par ailleurs que le tabac est l'une des causes les plus importantes de décès dans le monde. Un mort toutes les 6 secondes et environ 8 millions par an. Si le niveau de tabagisme actuel persiste, ce sera environ 10 millions de personnes par an à partir de 2020. Le tabac, qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle, pourra en faire 1 milliard au XXIe siècle.
Technologie, c'est notre rubrique du jour. Marie-Josée Mwando, Bois-Bois-Lot.
La rubrique sur la technologie se concentre sur les méthodes appelées à sauver le monde d'une deuxième vague de coronavirus. pour savoir qui a côtoyé un malade, deux méthodes bien distinctes existent, à savoir la technologie de communication Bluetooth entre appareils électroniques situés à proximité ou la géolocalisation qui permet de recueillir des données sur les déplacements d'un individu. Chaque pays met en place des solutions différentes. La France s'apprête par exemple à lancer Stop Covid, son application de traçage Bluetooth, sur la base du volontariat. Plusieurs pays européens ont adopté une approche décentralisée. L'Italie a décidé de lancer Immuni dans quelques régions cette semaine avant un éventuel élargissement à tout le pays mi-juin. En Belgique, le système à traçage physique a été privilégié depuis le 11 mai. Il s'appuie sur des centres d'appels téléphoniques. En Chine, plusieurs applications existent pour indiquer le niveau de risque d'une personne selon son historique de voyage et ses rencontres avec de potentiels infectés. Vert, jaune, rouge, un code couleur détermine si l'on peut acheter un billet d'avion ou entrer dans un lieu public. À Hong Kong, les autorités utilisent des bracelets pour suivre toute personne de retour de l'étranger et mise en quarantaine pendant 14 jours. Le bracelet est connecté à un téléphone pour suivre les déplacements de la personne. À Taïwan, chaque arrivant sur l'île doit régulièrement informer les autorités de ses déplacements, ce que les commissariats de police peuvent vérifier via un système de triangulation téléphonique. Au Pakistan, des outils de géolocalisation développés par l'antiterrorisme sont utilisés pour épier les malades cherchant à fuir les centres de quarantaine ou à contourner les mesures d'isolement. Aux États-Unis d'Amérique, de grands États comme la Californie ou New York ont opté pour l'embauche de milliers d'enquêteurs de santé publique qui doivent appeler au téléphone tous les cas confirmés de COVID-19 afin de dresser une liste de toutes les personnes qui ont passé plus de 15 minutes à moins de 2 mètres de distance d'elles et appeler ces contacts-là ensuite pour les inciter à l'isolement. Au Brésil, un hôpital de São Paulo a développé une nouvelle technologie pouvant augmenter de façon considérable la capacité de dépistage du coronavirus grâce à des tests génétiques. Avec un séquençage nouvelle génération, l'analyse génétique développée par l'hôpital Albert Einstein permet d'identifier l'acide ribonucléique du virus. Google a présenté vendredi un outil baptisé Sodar. Les utilisateurs verront apparaître un cercle blanc autour d'eux pour visualiser la distance à respecter avec les autres. Dans toute la région africaine, les innovateurs locaux ont pris des mesures pour combler les lacunes dans la réponse à la pandémie, souvent dans des contextes où les services de santé traditionnels sont sollicités à l'extrême, dans le but de réduire l'utilisation des fonds du secteur de la santé pour l'achat d'équipements de protection individuelle. Flying Doctors a déployé au moins 12 cabines de tests mobiles à bas prix dans 5 États du Nigeria. Au Ghana voisin, Lord Basing, un entrepreneur local ayant une formation en microbiologie et en génie biomédical, a dirigé une équipe de scientifiques médicaux en collaboration avec l'Université Kwame Nkrumah des sciences et technologies pour développer un test de diagnostic rapide, peu coûteux et facile à produire.
Parole aux auditeurs.
Merci à Radio Vatican. Je suis l'abbé Norbert Eric Abécan, vicaire épiscopal, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. La COVID-19 nous a fait prendre conscience qu'il s'agit d'un rien pour que tout s'arrête, que la marche du monde s'arrête. Ce virus est arrivé et la marche du monde s'est arrêtée. Tout est l'arrêt sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Tout est l'arrêt. Au niveau personnel, il y a des frères et sœurs qui vivent dans la psychose, dans la peur de l'autre, la peur de la maladie, la peur de la mort. Vous le savez, la peur est une mauvaise conseillère. La peur est paralysante. Dans cette crise, nous avons essayé, au niveau de notre paroisse, avec mes vicaires, de permettre à notre Seigneur Jésus de continuer à passer en faisant le bien. C'est ainsi que, dès les premiers moments, alors que le gouvernement et à la suite nos évêques nous ont demandé de tout fermer, mais nous, nous avons décidé de faire une procession du Saint-Sacrement. Le Seigneur Jésus est passé dans nos rues. Sur tout le territoire paroissial de Sainte-Famille, le Seigneur est passé. Et bien sûr, à Pâques, alors que tout était fermé, nous étions restés chacun chez soi, mais nous avons repris cette expérience avec le Saint-Sacrement qui est passé. Jésus est ressuscité, sorti du tombeau, il passe encore pour nous bénir. Et sur ce plan, nous avons permis à nos paroissiens d'avoir des célébrations eucharistiques à travers les réseaux sociaux. Nous avons aussi organisé au niveau de la paroisse Sainte-Famille ce que nous appelons les bandeaux blancs. Les bandeaux blancs, au fond, c'était une institution qui nous permettait de reproduire les restos du cœur. Donc, nous avons permis, à travers les dons que nous avons eus de beaucoup de chrétiens, mais les non-chrétiens, d'aider les évêques émérites, les prêtres âgés, les imams âgés, les pasteurs âgés. Et nous avons permis à nos frères et sœurs de recevoir ces dons. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons donc essayé, dans ce temps de confinement, pour aider nos frères et sœurs chrétiens à prendre conscience que nous devons être des chrétiens debout. Que Dieu nous garde et nous bénisse.
Pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager avec nous leurs différentes expériences en cette période de pandémie de COVID-19, envoyez un message vocal via WhatsApp au numéro 0039 351 505 93 03. 0039 351 505 93 03.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que se renferme cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Camille Moukosso. À toutes et à tous, merci de votre fidélité aux ondes des radios Vatican. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio.